Bien, bonjour à tous. Alors, on est ravis d'être avec Vandra aujourd'hui pour discuter un peu de ce manga Stray Dog, donc à l'occasion de Livre Paris. Auparavant, Salon du Livre, mais c'est la même chose, mais Vandra, donc on ne sera pas perdu. Avant d'en venir un peu plus précisément à la série en particulier, est-ce que vous pouvez vous présenter et retracer un peu votre parcours?
Alors, présentation sera assez succincte, dans le sens où je suis Vandra. Bonjour à tous ceux qui vont écouter ce petit podcast. Je suis donc une mangaka française et je suis l'auteur de plusieurs séries, dont Stray Dog et Ayakashi, qui sont éditées en France. Bientôt Mortison sera présenté l'année prochaine chez Glénat également. Au niveau de mon parcours, donc je suis quelqu'un qui est autodidacte, qui n'a jamais pris de cours de dessin. Et au départ, je travaillais non pas dans mon game, mais dans le comics américain, puisque j'ai fait l'ancrage de pas mal de séries relatives à Batman et aux Green Lantern, ceux qui connaissent l'univers DC Comics. Et puis à un moment donné, c'est vrai que travailler pour des licences aussi importantes, c'est très, très sympa, sauf qu'on est vraiment au service du personnage. On n'a pas forcément le loisir d'avoir le droit finalement au chapitre, on n'a pas le droit au chapitre. On est vraiment assujetti au scénario qui a été validé par la maison mère. Et du coup, on est vraiment que des exécutants, donc dessinateurs ou encore. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'animer mes propres personnages, de dessiner mes propres histoires, et ne pas avoir forcément quelqu'un au-dessus de ma tête qui me dit écoutez, non, là, vous ne pouvez pas digresser, on a un scénario, il a été validé, vous devez y tenir, même si ce n'est pas forcément cohérent, c'était validé, donc point barre. Donc j'ai commencé finalement à dessiner, et au départ, ce que je faisais était vraiment du comics, parce que c'est ce que j'avais appris à faire, avec des cases bien rectangulaires, des pages très statiques, etc. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire, puisque je voulais vraiment faire quelque chose de dynamique, moi, au contraire. Et puis c'est vrai que le format comics me gênait par rapport à ça, avec ces cases très bien faites, très parfaites, avec encore une fois bien alignées les unes sur les autres. C'était vraiment quelque chose qui ne me plaisait pas. Et c'est vrai que je me suis un peu cherchée jusqu'à ce qu'à un moment donné, chez une amie, je tombe sur une petite BD de poche avec une super pagination, donc un nombre de pages assez important, et avec une mise en page détonnante, plein de dynamisme, et c'était donc un manga que je ne connaissais pas du tout. Et je me dis, ah mais c'est ça moi que je veux faire. En fait c'est ça que je cherchais. Ça existe en fait ce format-là, parce que moi au départ en tant qu'européenne, j'étais persuadée que ce qui n'existait c'est que le comics ou la franco-belge. Et là je suis tombée sur une autre catégorie de BD, le manga, qui du coup répondait à tout ce que je voulais faire et qui était interdit dans les concepts et les règles de la BD européenne, voire américaine. Et du coup j'ai commencé à faire mes premiers mangas vraiment à cause de ça ou grâce à ça. Et maintenant c'est un format que je n'abandonne plus parce que ça me correspond vraiment. Et parce que l'intérêt du manga c'est que il n'y a pas forcément de règles à l'intérieur autre que celle de mettre en scène des personnages et de faire passer finalement des messages et des émotions au lecteur. Contrairement à la BD franco-belge ou comics, où c'est très statique, où encore une fois on suit les aventures du personnage avec plaisir, on n'a pas forcément d'affinité pour ce personnage-là. Le manga est plus quelque chose formé dans le partage, et du coup on a une pagination qui est très importante qui permet de mettre en scène des personnages, de revenir sur ces personnages, de les rendre humains, on a la place de le faire. On a également une mise en page qui est au service de l'histoire et non pas l'histoire qui doit rentrer dans ces cases-là. Et du coup c'est vrai que c'est un format que je ne pouvais plus abandonner parce que ça me correspond tout à fait et ça correspond tout à fait au message que je veux faire passer avec mes lecteurs.
Et donc sur Stray Dog, je me souviens pour les volumes précédents, mais le volume 3 notamment est assez volumineux.
Oui, assez volumineux. En fait, volume 1 et 2 font exactement, c'était un coup du sort, 320 pages chacun. Le 4ème tome fait 420 pages. Voilà. Enfin, le 3ème tome, fait 420 pages. Parce que je suis en train de travailler sur le 4ème, c'est pour ça. Après, c'est pas forcément une volonté de faire des volumes épais, c'est juste que Stray Dog est une série un peu particulière. Chaque tome correspond à l'évolution d'un personnage précisément dans l'histoire, que ce soit au niveau de sa manière de penser, au niveau de sa manière d'agir, ses relations avec son entourage. Donc c'est vrai que tant que j'ai pas fini d'expliquer ce que j'ai expliqué à propos de ce personnage-là, qui sera peut-être pour ce volume-là plus mis en avant, je continue mon histoire. Voilà, donc c'était un des points qu'on a discuté avec Léna au départ, parce que je lui avais dit, honnêtement, les volumes sont des très gros volumes, et je dis c'est important de ne pas les couper avant, parce que chaque volume fait une petite conclusion sur un certain personnage. Même si l'histoire continue à courir sur les autres volumes, qu'on retrouve tel ou tel personnage qui avait été
au niveau des personnages et de leur passé par exemple, mais c'est vrai qu'au niveau du, présent, finalement, il ne se passe pas une durée si grande que ça, c'est l'impression que ça donne.
Voilà, bah disons que l'histoire étant très dense, c'est vrai que c'est une histoire qui a la particularité de se dérouler, on va dire, en temps réel, quasiment en temps réel, c'est-à-dire qu'on suit avec les personnages leur évolution. Et par exemple, c'est bien montré tout ce qui peut se passer dans une seule journée et il s'en passe. Il n'y a pas d'ellipse, on va dire, vraiment dedans. Donc après, c'est pas le coup de faire vraiment quelque chose d'inquisiteur à l'intérieur, de suivre, on va dire, à la lettre chaque personnage. C'est juste parce que les personnages, pour moi, doivent être tellement vivants que, et tellement finalement humains que je voulais vraiment que les lecteurs suivent leur péripétie, leur évolution, même en minutes, de minute à minute, parce que c'est important, parce qu'on a vraiment des thèmes qui sont abordés dedans, qui sont assez particuliers, qui sont très amenés à faire réfléchir les gens dessus. Et je voulais que par l'intérieur des personnages, les gens fassent ce devoir de réflexion avec eux. Voilà. Et non pas a posteriori, oui, c'est effectivement, il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais dans cette condition-là. Ils ont tout de suite, on va dire, le résultat de l'action et de la réaction des personnages. Et ils peuvent se dire, ah, directement, j'aurais pas réagi comme ça, ou ah oui, il a raison, j'aurais fait pareil.
Et est-ce que c'est pas une contrainte aussi d'un point de vue un peu éditorial malgré tout, parce que au niveau du manga, vu que vous avez choisi le format du manga, en fait, globalement ça reste quand même assez, assez calibré au niveau de l'épaisseur des volumes, et un certain rythme peut-être. Et ça n'a pas été un peu une...
Oui, non, c'est-à-dire que...
Ouais. Le manga est habitué par exemple avec les... était habitué au manga à la japonaise ou...
Non, en fait, non.
Ça n'a pas joué.
Non, pas du tout, parce que quand on regarde sur les mangas du catalogue Glénat, on a des mangas qui sont épais, moins épais, des mangas qui sont très épais, ce serait donc en partie, des mangas beaucoup plus courts. Par exemple, si on prend une série, comme ça, ils ont fait les deux Van Gogh sur une série, enfin, c'est un one-shot qui est très 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 épais. Donc voilà, si on prend par exemple les Bleach, où il y a très souvent des volumes qui dépassent les 250 pages, qui vont vers les 310 et quelques, c'est des volumes très épais. Là, ça paraît un peu moins épais parce que avec le nouvel imprimeur, les pages sont plus fines. Histoire que les gens, c'est plus facile à lire parce qu'au départ, quand on ouvrait un Bleach, ça faisait mal aux mains, l'épaisseur faisait que c'était difficile à ouvrir, etc. Donc voilà, donc, ils ont revu tout ça histoire de pouvoir mettre l'intégralité, comme ça s'appelle, du tome, sans avoir des difficultés pour le lecteur physiquement hein, à lire tout ça. Après, on a des volumes qui sont beaucoup plus courts, type par exemple, ils ont sorti une série qui est très intéressante, c'est 12 ans et demi, je crois, et des volumes qui sont très courts, ou du moins plus courts, parce que ce qui se passe dedans, c'est pas la même histoire, c'est pas la même manière de raconter, donc en fait, ils sont pas sujettis à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on signe une série, on va dire, chez Anita, du moins chez Léna, et moi, ils me demandent au départ, voilà, alors, qu'est-ce que vont être les tenants et les aboutissants, c'est quoi les thèmes abordés dedans, histoire de savoir si on peut le mettre pour tel public ou tel autre public, quelle va être la tomaison, donc le nombre d'auteurs, histoire qu'on puisse savoir, histoire que quand on va contacter donc, le directeur de Glénat, on dit bah, oui, en fait, je voudrais commencer une série, je sais comment ça commence, mais je sais pas comment ça va évoluer, qu'est-ce que ça va vous dire, et je sais pas, j'ai pas la moindre idée du nombre de tomes qui va être sur cette série. C'est sûr qu'il va me dire, oui, bah, quand tu auras travaillé un peu ton projet, tu viens me voir, parce que là, c'est légèrement fou, parce que vu que c'est moi qui, on va dire, paye tes avaloirs, j'aimerais bien que, savoir à peu près qu'est-ce qu'il en est. Ce qui n'empêche absolument pas de rajouter des tomes supplémentaires. Ce qui se passe par exemple pour Yakashi, au départ, t'es parti sur une série en deux tomes. Au final, la série étant dense au niveau du scénario, on a préféré prendre plus de temps, donc avec une tomaison un peu plus longue, au fur et à mesure, histoire d'avoir la place de bien détailler tout et la place de faire vraiment passer les messages qu'on voulait faire passer sans faire des raccourcis, couper dans l'art et avoir quelque chose de bancal au final. Donc au départ, pour une série qui était signée pour deux volumes, on arrive pratiquement sur une série à 5 volumes. Ce n'est pas grave, la série se vend bien, donc, et puis Glénat, on avait exposé quelque chose au départ, vu que les tomes ils sont travaillés, il n'a pas de mauvaise surprise avec, il est d'accord pour poursuivre après. Puis, comme le lectorat est présent, voilà. Ceci dit, au départ, il savait que c'était une série courte. Si je lui avais dit au départ, oui, je signe pour une série à 20 volumes, ok, il prévoit 20 volumes, et si je lui dis demain, oui, bah finalement c'est en 5, bon, voilà, finalement ça va être en 70 volumes, il dit non, au départ, je pars sur une idée, on peut faire un petit peu plus, on peut faire un petit peu moins, et globalement, j'ai prévu ça. Ne serait-ce que pour l'annonce au catalogue, l'annonce au couvert, etc. Et puis pour les lecteurs aussi, si on leur dit, bah écoutez, la série est en cours, mais on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, les lecteurs vont dire, bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent savoir combien de place ça prend dans la bibliothèque, est-ce que ça va être un One Piece qui fait 80 et quelques volumes, ou est-ce que ça va être, comment ça s'appelle, un Arms ou comment ça s'appelle, un Void qui se, ou un Blame qui se passe en peu de volumes. C'est ça quoi. Défendre une série comme Bleach qui a donc 80 volumes, défendre One Piece qui a plus de 80 volumes, c'est pas la même chose que de défendre une série qui se passe en 10-15 volumes, c'est pas pareil. Donc voilà, tout ça fait que c'est vraiment les principales choses que l'on demande. Après, on demande quelle est la pagination, donc le nombre de pages globales dedans. La pagination va déterminer finalement quel va être le prix de vente de départ du tome. Threadog, souvent on me dit oui, mais Threadog c'est plus cher qu'un manga. Ben oui, mais vous avez pratiquement le double d'un manga à l'intérieur. Donc un manga en général ça oscille entre 150 pages et 180 pages. Et ça c'est le format standard du manga. Vous pouvez en mettre plus, en mettre un tout petit peu moins. Mais en général la limite de base c'est 150 pages. Ceci dit, après c'est pas déterminé. Mais par exemple, vous signez une série comme Threadog, vous faites un tome qui sera vendu à 6,50€, vous foutez 400 pages à l'intérieur, l'éditeur s'y retrouvera jamais parce que Glénat est un des seuls éditeurs qui sert à max les prix. Là, quand ils ont fait du 400 pages, la marge elle est tellement minime que. Mais c'était le jeu, on l'a accepté dans cette série au maximum pour que ça soit quand même abordable malgré la quantité de pages à l'intérieur. Donc, ça, c'est à déterminer au départ parce que il faut que tout le monde s'y retrouve. Voilà, si je signe un tome de Threadog pour du 300 pages et que demain je lui rends 150 pages, il va dire oui, c'est bien. Mais en attendant, maintenant les lecteurs vont des décomptes parce que la série est signée pour un prix unique de 9,15€. 9,15€ pour un truc qui sera tout petit. Les gens vont se demander, ils vont dire ouais, Vanra, je veux rien. On nous a un peu escroqué sur le prix quoi. Par contre, un Ayakashi qui compte 200 pages à peu près, il est vendu moins cher, donc ça te vaut quelque chose parce qu'on est sur un format qui est plus épais qu'un format qui dépasse les 180 pages. Ceci dit, on est beaucoup moins, on va dire, en nombre de pages, beaucoup plus faible qu'un Threadog. Et ainsi de suite. Donc en fait, ça c'est des choses à déterminer au départ. Chez Glénat, on a la chance, d'avoir pour ça que j'ai signé avec lui au départ, c'est qu'on a vraiment la chance d'avoir un éditeur qui a l'écoute, qui ne se dit pas forcément non. Non, moi je fais des mangas comme ça, etc. Parce que bah, finalement dans son panel catalogue, il y a des mangas de tout type et de toutes sortes. Des éditions collector, des éditions grand format, des éditions couleur, des éditions petit format, des éditions presse. C'est un éditeur qui est quand même très malléable. On ira sur d'autres maisons d'édition peut-être, par exemple dans Kiyun, c'est très formaté, donc ça c'est le gros point positif que bah, finalement le lectorat est habitué à ce format là, il sait oui tel format c'est Kiyun. Voilà. Donc c'est bien, il n'y a pas de surprise, les gens savent, c'est un point de référence. Ceci dit, c'est plus difficile après à défendre, je pense, des séries qui ne sont pas sur ce format là. En format, je compte le nombre de pages. Parce que quand on regarde en manga, ils font tous à peu près entre 200 et 230 pages. Tous la même épaisseur quasiment. Donc, parce que c'est leur marque de fabrique, c'est comme ça. Ils l'ont voulu comme ça, c'est des gros points positifs. Ça peut être des points négatifs quand on fait une manga de création où on n'a peut-être pas forcément le nombre de pages.
Ça laisse moins de marge.
Voilà, moi je sais que quand je suis allée défendre Threadog chez eux, c'était un des points où ils ont un peu tiqué parce qu'ils m'ont dit, vous savez, les volumes, il faudra les couper parce que 300 pages, ça ne sera pas possible. Mmh. Voilà. C'est tout de suite, ce que je peux comprendre très bien, parce que chacun a son, on va dire, sa manière et son catalogue pour faire ça.
Et parmi les mangaka, est-ce qu'il y en a un qui vous a... Est-ce qu'il y a des mangaka qui vous ont un peu inspiré dans vos traits, dans votre façon de dessiner?
Oui. Alors dans la manière de dessiner, la mise en scène, alors je peux en citer, alors si on tape sur les mangaka, ce sera des mangaka japonais. Il y a Hiroyuki Asada qui a fait l'excellent Letter Beat, donc connu sous le titre original Tagami Bachi. Il a également fait, ça a été édité par Kana, il me semble, ou Tonkam, pardon, Tonkam au départ, c'est Crazy Kotou PC, c'est A Génération Basket. Moi j'ai connu cet auteur avec ça, qui a un trait qui est vraiment exceptionnel, avec des ancrages aussi qui sont très intéressants. Il y a l'excellent Miwashiro aussi qui m'a beaucoup influencé sur la mise en scène cette fois-ci. Les focus, les choses comme ça, parce qu'il a une mise en page qui est excessivement dynamique, qui est très sympa. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de dialogue dans ces trucs. Donc vraiment, tout passe par le dessin, par ça, et je trouve ça exceptionnel. Il y a Tsutsumu Nie aussi qui a fait Blame, qui a fait Noise, etc. Où lui, c'est plutôt pour les décors, parce qu'il arrive à nous faire passer des trucs grossiers avec des décors de fou, où les personnages quasiment sont très secondaires. L'histoire, c'est les décors. Donc il y a celui-là. Il y a également Kairi Shimotsuki qui a fait Brave Ten. Elle a l'intérêt d'être une auteure féminine qui fait uniquement, comment ça s'appelle, du shonen ou du seinen. Et ça, je trouvais ça super parce qu'elle arrive à tirer vraiment son épine du jeu avec, pareil, des personnages très charismatiques, des costumes assez sympas. Et pareil, beaucoup de dynamisme dans sa manière de faire. Et un titre rayon qui est quand même assez unique. Et après, en tant qu'illustrateur, c'est plus Yone Kazuki qui fait pas mal d'illustrations de jeux vidéo pour la mise en couleur. Après, c'est vrai que je pourrais citer plus des auteurs de comics américains pour mon ancrage à moi, puisque bah, du coup, je viens de ce milieu-là. Il y aura, comment ça s'appelle, Marc Cousteau qui a travaillé sur la Red Robin, qui a travaillé sur, comment ça s'appelle, Teen Titans aussi. Il y a comment s'appelle Francis Manapoul qui a travaillé beaucoup sur Superboy et sur les Flash au niveau de la série. Il y a le gigantissime Jim Lee qui fait des dessins de fou. Qui a travaillé sur les Batman et qui a révolutionné Batman et Justice League. Et enfin Ivan Reis qui m'a beaucoup appris, parce que j'étais autodidacte et c'est vraiment lui qui m'a appris finalement à montrer à dessiner, qui travaille sur la Justice League, Green Lantern aussi, et qui a révolutionné le pan, Aquaman aussi. Aquaman était un personnage que je détestais et dessiné avec son trait et avec sa mise en scène à lui, c'est le passage qui est devenu un de mes passages favoris. Et je trouve ce tour de force, et je pense ne pas être la seule à avoir eu ça, puisque vraiment c'est un personnage qui était très, décrié, parce que trop lisse, trop peu en avant, trop parfait, quoi. Et du coup, il a vraiment pris le personnage, il a fait sa mise en scène à lui, et c'est vrai que sous son trait rayon et sa manière de faire, on a vraiment eu envie d'avoir la suite des aventures d'Aquaman.
Pour en revenir à Stray Dog et au contenu un peu au niveau de l'histoire, alors on constate que l'histoire, c'est un univers très riche, il y a énormément de choses, il y a tout plein de détails, il y a beaucoup de dialogues qui explicitent vraiment les choses et apparemment c'était vraiment une volonté au départ de bien. C'est vrai que l'univers il a une vraie pas existence non plus parce que les deux, ça reste un.
C'est...
Il a une vraie. On le sent quoi.
Si on enlève le côté, après c'est vraiment une volonté. Cet univers est ce qu'il est. Ça fait des années que je travaille dessus, dans le sens où j'ai beaucoup de séries. Et mis à part les cachets, toutes mes séries se passent dans ce même univers là. Donc les lois de cet univers là, le fait qu'il y ait on va dire, le conflit entre la race des humains et la race des carates qui sont les démons légendaires, que les gens qui prennent forme finalement humaine à ce niveau-là. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps et c'est vrai que ça c'est, on va dire, une volonté vraiment ferme de faire en sorte que si on enlève le côté et les petits aspects fantastiques de l'histoire, l'intégralité de l'histoire soit plausible et capable d'exister dans la vie réelle. Voilà, les cas médicaux sur cet événement sont des vrais cas. Moi au départ, j'ai une formation médicale parce que j'étais ostéopathe PIA, donc du coup avec l'accord des patients, certains dossiers c'est vraiment de ces patients que j'ai repris, qui sont affichés dedans. Tout ce qui est le côté mécanique aussi, des scellés, etc., c'est des choses qui existent et qu'on met nous en place sur les prothèses. Donc c'est vraiment, voilà, je voulais vraiment que ça soit un côté plausible et que les gens se disent par-delà, on va dire, le côté encore une fois fantastique, oui, si j'avais été dans son cas, ça m'était arrivé, ça aurait pu exister. Donc ça me permet par ce biais-là de rendre l'histoire encore une fois réelle et existante et permettre au lecteur de s'immerger complètement dedans.
D'ailleurs c'est assez étonnant parce que finalement on s'en rend pas tellement compte, c'est tellement intégré dans le récit que.
Mais ça passe tout seul et c'est tant mieux parce que après c'est vrai que de temps en temps il y a des fois des dialogues qui expliquent ça parce que il est nécessaire pour que le lecteur puisse complètement, on va dire, saisir toutes les lois de cet univers là et donc on est obligé, on va dire, de lui donner, on va dire, toutes ces règles pour qu'il puisse savoir comment jouer à l'intérieur, parce que finalement le lecteur il suit les personnages en temps réel, donc finalement c'est comme s'ils intégraient l'histoire aussi. Voilà, quand on parle par exemple du Bird qui est la société qui permet la réhabilitation des démons des carates, ils peuvent se dire, demain, moi par exemple, là pour la promo de Skyward 3, on a fait sortir à Glenna des badges du Bird. Des badges, on va dire, qui permettent d'aller visiter la tour du Bird. Des vrais faux badges qui sont plantés dans la série aussi, les gens les portent et les gens se disent, ah oui, en réalité c'est ça, avec telle couleur, telle matière, telle ci, telle ça, qui sont revantés dans le volume. Et les gens, quand ils sont arrivés, font, ah ouais, demain je pourrais visiter le Bird et tout, on a mis des horaires d'ouverture, voilà, parce que c'est un univers qui est tellement plausible que ça pourrait, demain, on pourrait trouver la tour du Bird et aller visiter. Quoi. Les gens m'ont dit, mais où c'est qu'on va visiter le trône du Bird? Ben, je dis, à Eftar. Ah bah oui, effectivement, oui, si je vais là-bas, je peux y aller. Et oui, je peux y aller là-bas.
Et donc, c'est un univers donc, qui est quand même assez... qui a une vraie présence. Et vous allez l'explorer encore un petit moment ou,
Je vais essayer encore pas mal de temps là-dedans. Ouais. Mais disons que Stray Dog n'étant pas ma seule série, on va dire, éditée, déjà, je vais poursuivre l'aventure avec Stray Dog, tout simplement. Ensuite, là, il va y avoir Mantisane qui va être, qui va apparaître au catalogue Glénat l'année prochaine, qui est le préquel de Stray Dog, puisque Stray Dog, on commence avec une certaine temporalité. Et Mantisane se passe juste avant, il va expliquer les événements qui sont passés avant et qui vont donner lieu finalement à ce qui se passe dans Stray Dog. Finalement, toutes mes séries sont, alors moi je dis ça, je dis des crossovers parce que je pense que c'est plus facile à comprendre pour les gens, mais c'est pas forcément des crossovers, c'est-à-dire c'est pas un personnage qu'on va prendre ici qui a un autre rôle ailleurs. C'est un timeline continu avec telle série qui raconte les mêmes événements, mais qui va se passer avant. Ensuite, la série qui va se passer après, on va reprendre les mêmes personnages, sauf qu'on va passer les personnages avec les mêmes événements vus par d'autres personnages. Dans Morticia, on a les événements qui ont conduit à la dissociation entre les deux races Karat et humains, qui sont vus par l'intermédiaire de Senri, c'est un personnage humain, qui lui va essayer justement de raccrocher les deux races et de faire en sorte que les Karat ne soient pas exterminés, qu'on leur laisse une chance. Dans Stray Dog, ça se passe du côté au contraire des Karat, qui explique comment eux ils ont vécu les événements. Donc finalement on change de point de vue, on change de point de réflexion, les éléments de base restent les mêmes. Dans Morticia, ce qui a déclenché le conflit entre les Karat et les humains, c'est un gros attentat qui a été revendiqué par un démon justement, et qui a fait que déjà que c'était un peu tendu parce que ça cohabite pas forcément les uns avec les autres. Ceci dit, à partir du moment où il y a eu cet événement-là, ça a mis le roi et les humains se sont dit les Karat c'est un danger, donc on va tous les abattre et les exterminer. Voilà. Et on a comme quelques percussions dans ce dog, du coup la formation du bird par Senri, ainsi de suite, le fait que le Karat maintenant doit porter les scellés alors qu'au départ c'est comme des êtres vivants, quoi. C'est comme si on disait, alors je veux absolument pas être raciste, mais c'est comme si on disait, par exemple, lorsqu'il y avait la période de l'apartheid, oui les blancs veulent que les personnes de couleur portent des restrictions, ou ne serait-ce que par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, vous voulez que tel peuple porte telle étoile ou tel costume rose par exemple pour les personnes homosexuelles ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on voulait les reconnaître, on voulait leur faire vraiment un distinguo précis. Mais si c'est des êtres humains, même si ils ne demandaient rien à personne. Et que ce n'était pas forcément des gens dangereux. Voilà. Donc tout ça, ça me fait de revenir dessus. Et c'est vrai que c'est un monde, le monde d'Ishtar et le monde des Karat et des humains, c'est un monde qui se parcourt sur plusieurs séries. Sur Neverend, qui se passe avant Mortician, sur Mortician, qui se passe avant Stray Dog, sur Stray Dog. Et voilà quoi.
On a un panorama complet de ce qui
voilà,
se passe.
Voilà, tout à fait. Et après, il y a tout qui sera mis en place avec. En fait, l'intérêt étant que les personnes qui ne lisent pas telle ou telle série n'ont pas besoin des autres pour comprendre. Ceci dit, la personne qui lit tout le panel a une vue générale de tout ce qui s'est passé. C'est comme le coup, on parlait tout à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme si la personne prenait, au lieu de prendre une seule époque, une seule tranche d'âge, prenait avant, après et pendant. Voilà. Il a tout le fin mot de l'histoire.
On attend en tout cas la suite avec impatience. Et donc, est-ce qu'il y a aussi d'autres projets éventuellement en dehors de... C'est un gros morceau déjà. Des envies éventuellement
La prochaine série que j'aimerais bien défendre, c'est Neverend, puisque ça reste dans le panel, etc. Puis c'est une série, justement, j'ai rendez-vous avec des éditeurs qui voudraient la prendre au catalogue. À voir ce que ça donne, parce que mon but étant, c'est qu'au départ, moi, comme j'étais édité aux États-Unis, les Américains sont adorables. Franchement, c'est des gens, on ne peut pas s'imaginer à quel point, lorsqu'ils sont fans, à quel point ce que ça peut donner. C'est des gens qui sont prêts à tout donner parce qu'ils sont fans de quelque chose. Quand on voit par exemple des Comic-Con, on voit la populace qu'il y a, qui sont juste venus parce qu'il y a un auteur ou un acteur qui vient, et ils sont dévoués. L'acteur, il pourrait poster n'importe quoi sur ses blogs et tout, les gens sont hyper dévoués. Voilà. Ici, on a moins ça. Ceci dit, c'est moins ça, mais c'est de manière différente. Voilà. Le culte du fan se fait autrement. Les personnes achètent les livres, ils vont pas forcément se rendre physiquement ou agir physiquement, pour ça. Ce qui est pas forcément plus grave, parce que des fois il peut y avoir des dérapages, des choses comme ça. C'est différent. L'intérêt d'avoir la possibilité de pouvoir rencontrer le lecteur en France, c'est pour ça que je pousse vraiment pour que les séries soient en France aussi, c'est que je peux rencontrer les gens directement, que là-bas, il faut quand même 20 000 km pour aller voir là-bas, c'est plus compliqué que là, c'est quand même beaucoup facile. Et puis encore une fois, en étant autodidacte, même si j'ai confiance en les personnages, parce que moi j'ai tendance à décrire les personnages comme étant des personnes vivantes, parce que ce sont mes bébés et du coup je les considère vraiment comme des amis que je vais mettre en scène. Voilà. Donc si j'ai confiance en eux, j'ai très peu confiance en moi parce que je n'ai pas de formation, je sais jamais si c'est bien ou pas bien. Je me dis j'espère que c'est bien, j'espère que ça va plaire. J'ai toujours le même stress lorsque je sors quelque chose en me disant pourvu que ça plaira, pourvu que ça plaira. Et d'ailleurs si vous passez en dédicace, à chaque personne je demande, tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Et alors c'était comment? Ça t'a plu? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est ce que ça? Parce que j'ai pas forcément de recul par rapport à ça. Donc déjà il y a ça, donc moi ça me sert aussi pour moi, en tant qu'auteur. ça me sert à progresser. Le fait d'avoir des lecteurs qui me font des retours, ça me fait progresser. Et justement, je compte sur eux pour faire progresser. Il y a aussi beaucoup parce que bah, finalement, ça va sûrement que je travaille dans ce milieu-là. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir bah, du coup le fin mot de l'histoire au complet. Et j'aimerais bien qu'il l'ait aussi parce que maintenant, ça peut-être être un peu fluide de le dire comme ça, mais les lecteurs font partie aussi maintenant de ma famille. Donc du coup, c'est des gens sur lesquels je m'appuie beaucoup et je voudrais aussi que partager plus avec eux parce qu'ils m'aident à travailler et j'aimerais leur donner plus à lire. Voilà. Donc, l'éditeur, si vous voulez, Demeren, il est à placer.
Bien, merci beaucoup pour notre passionnant entretien. Puis donc au plaisir de vous lire dans les suites et
bah, j'espère
et,
que ça vous plaira.
Et l'annexe à l'univers. Merci encore.
Merci à vous.